Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, l'avocat des patients les plus vulnérables. Des balcons pour mieux vivre. 7 bonnes habitudes à adopter pour vous rapprocher de l'indépendance financière. Et Patrick et Charlebois, un marathon au Pôle Nord. Bonne écoute.
L'avocat des patients les plus vulnérables. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. Le scandale du CHSLD Saint-Charles-Borromée, la mort de Joyce Echaquan, l'affaire de l'hôpital Rivière-des-Prairies, l'aide médicale à mourir. L'avocat Jean-Pierre Ménard a été de presque tous les grands litiges judiciaires sur la santé au Québec. Notre collègue Ariane Lacourcière a eu la bonne idée d'écrire la biographie de cet avocat craint mais respecté. Mais attention, ce livre n'est pas seulement une biographie de l'avocat le plus réputé en droit de la santé au Québec. C'est aussi une recension de plusieurs des épisodes les moins glorieux de notre système de santé depuis les années 1980. Avec sa plume vivante et précise, Ariane Lacourcière nous raconte les plus importants litiges de la carrière de Maître Ménard. Des litiges où des patients vulnérables ont dû s'adresser aux tribunaux civils pour faire respecter leurs droits. Par exemple, quand 88 patients avec une déficience intellectuelle au pavillon Saint-Théophile ont été victimes d'abus par les employés dans les années 1980. Il y régnait un système d'exploitation financière et psychologique des bénéficiaires a tranché le tribunal. Quand il y a eu le triste scandale du CHSLD Saint-Charles-Borromée au milieu des années 1990, environ 600 résidents ont été maltraités dans cet établissement public. Au terme d'un règlement à l'amiable, ils se sont partagés 10 millions de dollars. Quand le gouvernement du Québec a fait une enquête en 1999 sur les pratiques à l'hôpital Rivière-des-Prairies auprès de 500 patients vulnérables représentés par le curateur public. Le rapport du groupe d'experts a conclu qu'on n'était pas dans un hôpital psychiatrique, mais dans un univers carcéral. Quand Joyce Echaquan, une mère de famille Atikamekw, de 37 ans, est morte dans des circonstances troublantes en 2020, sous les insultes du personnel soignant à l'hôpital de Joliette. Quand Nicole Gladue et Jean Truchon ont fait appel aux tribunaux en 2017 afin d'obtenir l'aide médicale à mourir. Ce jugement a permis d'élargir l'aide médicale à mourir aux patients admissibles qui ne sont pas en fin de vie. Ariane Lacourcière va toutefois au-delà des procédures judiciaires, des enquêtes publiques, des célèbres conférences de presse au cabinet d'avocats Ménard-Martin et des décisions des tribunaux. Au fil des pages, elle réussit aussi avec brio à nous faire découvrir un être bourru, entêté, mais sympathique. Élevée dans un milieu populaire de l'Est de Montréal, son père était camionneur, Jean-Pierre Ménard a un parcours atypique pour un récipiendaire de la médaille du barreau du Québec. Il n'était pas premier de classe, mais décrocheur au cégep. A fait l'armée, s'est fait renvoyer de chez Miracle Mart parce qu'il voulait y améliorer les conditions de travail. A commencé son droit comme étudiant adulte à 22 ans. N'a jamais travaillé dans un grand cabinet du centre-ville de Montréal, ayant plutôt établi son cabinet spécialisé en droit de la santé dans Hochelaga, avec sa femme, Maître Denise Martin. Le livre consacre aussi un chapitre à la plus dure bataille menée par Maître Ménard, celle contre son cancer en 2018. Au départ, les médecins lui donnaient 2 mois. Il est toujours en vie. Ce livre est passionnant. Parce que les causes sont très bien vulgarisées et parce qu'on découvre la vie d'un avocat hors norme ainsi que l'histoire des patients vulnérables qu'il a défendus durant sa carrière. Extrait. Le début des audiences de l'action collective dans le dossier de la légionellose est prévu pour septembre 2018. La négociation de l'entente ne se fera pas dans des conditions normales pour Maître Ménard. J'étais à l'hôpital. Je négociais avec la seringue dans le bras. Je ne le leur disais pas. Je ne voulais pas que ça se sache, dit-il. Dans le plus grand secret, l'avocat lutte à ce moment contre un cancer. Il est en plein traitement, mais il ne le dit à personne. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à mes adversaires, mais si tu sais que l'autre est au lit, tu ne fais pas de cadeau, remarque-t-il. C'était L'avocat des patients les plus vulnérables, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 5 mars 2023 dans La Presse.
Des balcons pour mieux vivre, un texte de Sarah Champagne, paru le 20 février dans La Presse. La pandémie a provoqué un vent de changement dans les règles de construction résidentielle de plusieurs grandes villes. La cible? Multiplier les balcons, terrasses, coins pelouses et espaces verts. Conscient de l'impact du confinement sur la santé de ses citoyens, les élus de Rennes, en France, ont réussi le tour de force d'obliger les architectes à inclure des balcons à leurs dessins. Une mesure s'alignant avec la nouvelle réalité du télétravail. Dorénavant, il est obligatoire de prévoir pour toute nouvelle construction un espace extérieur privatif d'au moins 4 mètres carrés. Les logements pour personnes âgées et ceux pour étudiants sont particulièrement visés. Une mesure qualifiée d'inédite, selon l'administration municipale de Rennes, dont la taille de la population se compare à celle de la ville de Québec. Le contexte sanitaire, le confinement, a joué dans notre décision, mais aussi le développement de modes de vie un peu différents, comme le télétravail. A résumé, Laurence Besserve, vice-présidente de Rennes Métropole responsable de l'aménagement et de l'habitat. À l'hôtel de ville, le responsable du service de presse, Lucas Offray, ajoute que les prévisions démographiques ne sont pas étrangères à ce virage. Selon les plus récentes données de Rennes, présentées lors d'une vaste consultation publique sur l'adoption d'un plan local d'urbanisme intercommunal, la population va passer de 460 000 à 533 000 résidents d'ici 2035, ce qui nécessitera la création de 65 000 nouveaux logements. Gym en plein air. En plein hiver, à l'angle des rues Robert-Bourassa et Ottawa, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera l'ambitieux complexe immobilier ODA Montréal, s'inspirant de la nature, s'inspirant de la forêt. Mais, au printemps prochain, les plans de construction avec des choix de finition boréale, laurentienne ou taïga commenceront à prendre forme. Mathieu Millette, architecte et vice-président du groupe COGIR, estime que le balcon a toujours été une exigence au Québec, ironiquement, même auprès des gens qui ne l'utilisent pas. Le balcon, c'est culturel, mais toute une réflexion s'est amorcée avec la pandémie, le confinement, avec les résidences pour personnes âgées, où les entrées et sorties ont été contrôlées. Ça va jusqu'au choix de matériaux antibactériens. Et il y a une plus grande sensibilité aux espaces extérieurs communs. On peut imaginer que des gyms extérieurs seront aménagés dans des types d'immeubles où l'on ne voyait que des gyms intérieurs, explique-t-il. Vous écoutez « Des balcons pour mieux vivre », un texte de Sarah Champagne, paru le 20 février dans la presse. Plan d'urbanisme. Dans cette mouvance, les élus de la Ville de Montréal ont adopté un document intitulé « Projet de ville vers un plan d'urbanisme et de mobilité ». L'ébauche servira à dépoussiérer le plan d'urbanisme actuel datant de 2004 pour définir l'avenir bâti de Montréal jusqu'en 2050. Les balcons feront partie de la réflexion, assure-t-on. Responsable de l'urbanisme et membre de l'exécutif, Robert Baudry explique que la population montréalaise souhaite plus que jamais des milieux de vie complets, avec espaces verts, parcs, commerces de proximité. Elle veut des logements abordables de qualité, adaptés aux différents besoins. On a tiré énormément de leçons de la pandémie, dit-il. On s'est rapproché. On a vu un fort retour du sentiment de communauté, de partage. Plus que jamais, la vie de quartier est devenue essentielle. On a vu la force de la mixité des usages en ville, comme le centre-ville habité, qui nous a permis de remonter la pente beaucoup plus rapidement que d'autres grandes métropoles. Tout ça a eu pour effet d'exacerber plein de besoins qui existaient avant la pandémie, mais qui sont devenus indispensables pour les citoyens. Montréal, Balconville. Passionné par l'environnement urbain, Philippe Lupien, architecte et professeur de l'École de design de l'Université du Québec à Montréal, fait remarquer que Montréal a longtemps été surnommé « Balconville ». C'est surtout en référence aux nombreux plex conçus avec un petit escalier en colimaçon menant à un balcon, précise-t-il. Le spécialiste croit que Montréal est en train de passer à un autre niveau en matière de balcons et d'aménagement. On s'inspire de plus en plus de projets grandioses, comme le Bosco à Milan, reconnu mondialement pour ses tours d'habitation entièrement végétalisées. On voit de plus en plus de loggias, balcons en partie couverts et encastrés, surtout en hauteur. Dans les nouveaux complexes, on installe de plus en plus de conduites de gaz naturel pour les relier au barbecue. Je crois qu'on verra de plus en plus de toitures en pente, des verrières, des écosystèmes intégrés aux immeubles, explique M. Lupien. À Montréal, plus de la moitié de la population vit dans des habitations de type logement, ajoute la directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal, Véronique Fournier. La dirigeante a justement assisté aux rencontres européennes de la participation publique qui se tenait dans la ville de Rennes l'automne dernier. Elle estime que la construction de nouveaux immeubles doit être axée sur des milieux de vie favorables à la santé. Il ne faut pas négliger les initiatives pour combattre les îlots de chaleur. Il est impératif pour Montréal de voir plus large que le balcon, avec l'aménagement urbain et l'accès à des espaces verts, à des parcs, à une vie de quartier. On n'a pas un cadre bâti comparable à Rennes. Avec la pandémie, on a appris. On a ouvert des pistes cyclables, des parcs, des rues sont devenues piétonnes. Pourquoi ne pas élargir la réflexion pour atteindre 30 % d'espace vert? Demande-t-elle. C'était « Des balcons pour mieux vivre », un texte de Sarah Champagne, paru le 20 février dans La Presse.
Sept bonnes habitudes à adopter pour vous rapprocher de l'indépendance financière. un texte dans Extra Femmes, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. Si, pour les générations précédentes, la retraite a longtemps été le but ultime à atteindre, c'est aujourd'hui d'indépendance financière dont rêvent bien des jeunes sur le marché du travail. Ambition inaccessible ou pas? Quoi qu'il en soit, faire les premiers pas pour vous en rapprocher n'a rien de bien sorcier. Il n'y a qu'à veiller à vos affaires et à adopter quelques bonnes habitudes financières qui ont fait leur preuve. 1. Gardez le cap sur la destination. Que le contexte économique ait mis à mal vos finances ou que tout soit au beau fixe à ce sujet, vous devriez au moins une fois par an dresser un bilan financier. C'est le moment non seulement de passer au peigne fin actif et passif et de revoir votre budget, mais aussi de vous assurer que votre portefeuille de placement est encore aligné sur votre profil d'investisseur, votre tolérance au risque et votre horizon d'épargne. En suivant de près vos affaires, vous vous assurez de vous rapprocher de votre rêve d'indépendance financière et vous ajustez la trajectoire le cas échéant. 2. Misez sur l'épargne systématique. L'efficacité de l'épargne systématique n'est plus à démontrer. Il est plus facile d'épargner de petites sommes sur une base régulière que de verser un gros montant d'un seul coup. Programmez des virements automatiques vers le véhicule d'épargne de votre choix. À chaque paye, ou encore chaque semaine ou chaque mois, vous permet d'épargner sans réellement vous en rendre compte et de vous rapprocher de votre rêve. Une fois l'argent sorti de votre compte bancaire, l'envie de le dépenser s'envole aussitôt. 3. Repérez les dépenses inutiles. Anodines en apparence, les dépenses prélevées en catimini sur votre carte de crédit ont le don de s'accumuler. Abonnement en privilège, service avec période d'essai gratuite, renouvellement automatique, augmentation en douce des frais. Scrutez à la loupe, votre relevé de carte de crédit peut se révéler payant. Pour vous sentir plus libre financièrement, il est primordial de surveiller de près vos dépenses récurrentes et de ne garder que l'essentiel. 4. Rentrez dans vos frais. Par la même occasion, jetez un coup d'œil aux dollars que vous laissez partir en frais bancaires, en frais annuels, de cartes de crédit et en frais de placement. Payez-vous pour un forfait trop généreux pour vos besoins réels? Au contraire, déboursez-vous trop d'argent pour des transactions ou des services à la pièce alors qu'un tarif forfaitaire serait plus avantageux? Il y a peut-être des économies et un peu de négociation à faire là. 5. Allez voir ailleurs. Bon nombre de gens se sentent trop souvent pris de court quand vient le temps pour eux de renouveler leur hypothèque ou leur assurance habitation et automobile. En inscrivant dès maintenant à votre calendrier un rappel plusieurs semaines avant l'échéance de ces contrats, il y a moyen pour vous d'éviter de reconduire ceux-ci à l'aveugle. De cette façon, vous vous donnez le temps de magasiner la prime la plus avantageuse ou de négocier le meilleur taux hypothécaire. 6. Profitez de tous les avantages fiscaux. Au moment de produire votre déclaration de revenus, il peut être judicieux de passer en revue les nouveaux avantages fiscaux ou d'analyser votre situation personnelle. Frais médicaux, frais de déménagement pour le travail ou les études, dons de bienfaisance, dépenses liées à des services de répit pour les aidants naturels, frais juridiques. La liste des déductions fiscales et des crédits d'impôt est longue et vous ne pensez peut-être pas toujours à réclamer tout votre dû. 7. Tirez parti du REER, du REEE, du CELI et du CELIAPP. Utilisés à leur plein potentiel, ces régimes enregistrés peuvent vous aider à atteindre les objectifs d'épargne que vous vous êtes fixés. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cet alphabet financier, il est dans votre intérêt d'en discuter ouvertement avec le professionnel qui vous accompagne dans vos finances. Chacun de ces régimes comporte des avantages fiscaux spécifiques et des restrictions qu'il vaut mieux connaître, mais ils ont en commun de vous aider à bâtir lentement, mais sûrement, une meilleure santé financière. C'était 7 bonnes habitudes à adopter pour vous rapprocher de l'indépendance financière, un texte dans Extra Femme, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. Patrick Charlebois, Un marathon au pôle Nord. Un texte de Mathieu Vachon, paru le 13 mars 2023 dans La Presse. Marathonien d'exception, le trifluvien Patrick Charlebois accomplira un rare fait d'armes dans son sport. En effet, en avril 2023, Charlebois prendra le départ de la 18e édition du North Pole Marathon, l'épreuve de sa discipline disputée la plus au nord sur le globe. Nous allons courir autour du pôle Nord à 7 reprises. C'est comme faire le tour du monde 7 fois. Je trouvais que c'était un beau défi par rapport à ce que j'ai fait il y a 5 ans, soit quand j'ai fait le tour du monde en 7 jours. C'est un peu l'inverse. C'est le marathon le plus difficile au monde selon plusieurs sources en raison des conditions météo imprévisibles, a relaté Charlebois. Grâce à cette participation, le Mauricien deviendra le 118e membre du club Marathon Grand Slam, réservé aux athlètes ayant connu au moins 42 km sur les 7 continents de la planète, ainsi que sur l'océan Arctique. Au-delà de ce rarissime fait d'armes qui le remplit de fierté, Charlebois ne se présente pas au domicile du Père Noël pour faire de la figuration. Il espère le podium, ni plus ni moins. Je m'entraîne dans le but d'atteindre une bonne performance, je vise un podium, ce qui n'a jamais été fait par un Canadien. Pour participer à ce rendez-vous au pôle Nord, Charlebois a eu droit à un laissez-passer à la suite de sa victoire au Volcano Marathon tenu au Chili en novembre dernier. Un contexte hors du commun. À la base, faire un marathon, ça demande une énorme préparation. Alors imaginez ce que ça prend pour faire celui qui est reconnu par Guinness World Records comme le plus grand au nord sur Terre. Le tout se déroule à Longyearbyen, un camp de base conçu expressément pour les besoins de l'événement. Initialement, les coureurs doivent se rendre à Svalbard, un archipel norvégien, pour le 7 avril. Après une journée de préparation, les participants sont amenés par avion à Longyearbyen afin de parcourir les 6 boucles de 7 km de ce marathon le 10 avril. Ça prend 2h30 de vol pour aller au campement. La piste d'atterrissage est sur la glace, bien entendu, mais il arrive qu'il y ait des crevasses. C'est arrivé que l'avion soit obligé de retourner à Svalbard le temps que la piste soit réparée. C'est propre au pôle Nord. Nous ne savons pas à quoi nous devrons faire face là-bas. Le tout se déroule sur une calotte glaciaire d'une épaisseur pouvant aller de 6 à 12 pieds. En dessous, c'est l'océan Arctique, qui s'étend jusqu'à 12 000 pieds de profondeur. En plus du froid mordant et du vent, les coureurs devront faire attention aux fissures et à la glace au sol. En comparaison à l'Arctique, on m'a décrit l'Antarctique comme une marche dans le parc. L'Antarctique, c'est un continent où il y a du dénivelé et des montagnes. Le pôle Nord, c'est un océan. Le vent vient de très loin et il fait très froid, bien évidemment. Tout ça se passe loin de la civilisation également. Ce n'est pas tout, cependant. Pour cette course, il y aura des soldats armés qui baliseront le trajet. Pourquoi seront-ils armés? C'est au cas où un ours polaire se présente et qu'il menace la sécurité des participants. Parfait pour rassurer, n'est-ce pas? La logistique est exceptionnelle. C'est le marathon le plus cher par kilomètre à cause de ça. Il doit y avoir des gens qui montent le campement là-bas. Il y a aussi les soldats qui balisent le parcours pour abattre les ours polaires si nous sommes attaqués, dit Patrick Charlebois. Pour se préparer adéquatement en vue de cet imposant défi, Charlebois a la chance d'habiter dans un pays nordique comme le nôtre, ce qui lui a offert des conditions hivernales difficiles pour s'entraîner. Il a notamment fait 4 heures de course à moins 40 degrés Celsius avec plus de 6 pouces de neige au sol en février dernier. Quand tout le monde était encabané près du foyer un samedi matin, moi j'étais dehors en train de simuler un vrai marathon sur la piste cyclable au Parc Lambert à Trois-Rivières. La surface était très dure. Je m'étais mis de la vaseline sur le visage et je gérais mon eau et l'alimentation avec ce froid. C'était une belle réussite. Mon équipement est à point. J'ai apporté quelques correctifs, car j'ai eu des engelures au visage. C'était utile comme préparation. Le coureur d'expérience fait valoir que le marathon du pôle Nord est un défi mental à 90 %. Il croit également que le fait d'être Canadien lui donne un certain avantage. Les Européens, les Asiatiques et les Américains n'ont pas ce climat à la maison. Au Canada, nous avons un hiver. Il est doux cette année, certes, mais j'ai pu m'entraîner dans des conditions qui ressemblent un peu à ça. C'était Patrick Charlebois, un marathon au pôle Nord, un article de Mathieu Vachon, paru le 13 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.fvzvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.